Pour bien préparer vos vacances, les guides Balado et RadioFrance.fr vous font gagner des GPS Garmin. Pour jouer, envoyez dès maintenant GPS par SMS au 62030, 35 centimes d'euros par envoi, plus coût d'un SMS. Jeu valable jusqu'au 30 juin 2007. Les guides Balado et RadioFrance.fr vous souhaitent un été tout en balade.
France Bleu Loire-Océan, c'est bon à savoir, Xavier Simon.
Le sujet de ce matin dans C'est bon à savoir, le strabisme. Le strabisme est une affection répandue. Ça concerne beaucoup de personnes dans notre pays. 1,5 million de personnes sont concernées par le strabisme, des enfants, des adultes. Vous pouvez bien entendu poser toutes les questions que vous souhaitez ou témoigner en ce qui concerne ce sujet. Vous en avez l'habitude jusqu'à 11h30 à ce numéro de téléphone de 02 40 73 6000, 02 40 73 6000. Gladys et Géraldine vous accueillent au standard. Je reçois ce matin le professeur Alain Pêchereau. Professeur Pêchereau, bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Vous êtes ophtalmologiste au CHU de Nantes. Vous êtes un spécialiste du strabisme. Et en plus, au CHU de Nantes, bien, vous êtes le meilleur service de France pour le strabisme, on peut le dire.
On va le dire.
On va le dire.
On va pas faire de fausse modestie. On est sorti premier au classement des hôpitaux. Je crois qu'on est assez fiers de ce classement.
Voilà. Et France Bleu Loire-Océan fait de la radio en Vendée, en Loire-Atlantique et dans le Maine-et-Loire. Et ça concerne beaucoup de personnes dans notre région. Alors, disons-le, bravo pour vous et tant mieux pour nous également. C'est important aussi pour nous. C'est une chance, hein. C'est pas le cas partout en France, quoi.
Oui, oui, je crois qu'on a développé une pertinence dans ce domaine. Et le classement du point le montre bien.
Alors le strabisme, c'est notre sujet ce matin. Je pensais pas que c'était aussi répandu. 1,5 million de personnes, 3% des adultes, 4 à 5% des enfants. En plus, le strabisme, c'est pas simplement une anomalie esthétique, hein. C'est vraiment quelque chose qui, alors esthétiquement, je pense que les gens le vivent très très mal. Vous en avez parlé un petit peu, hein. C'est difficile à vivre psychologiquement. Et en plus, ça peut avoir des répercussions graves pour la vision.
Absolument, le strabisme peut entraîner la perte de vision d'un œil. En gros, la moitié des strabismes voient mal d'un œil. Donc c'est quand même extrêmement important. Deuxièmement, cela a un retentissement aussi sur l'activité binoculaire, c'est-à-dire le sens du relief, la perception d'un ballon qui se déplace dans l'espace, par exemple pour quand on joue au foot ou au tennis. Avoir un strabisme est un vrai handicap.
Alors j'ai découvert différentes choses, on va le vérifier avec vous. Lorsque le strabisme est négligé chez l'enfant, il persiste chez l'adulte, hein, donc il faut s'en occuper le plus tôt possible, j'imagine.
Il faut s'en occuper le plus tôt possible.
Et puis il peut récidiver, c'est-à-dire que quelqu'un peut traité pour un strabisme et celui-ci peut récidiver. On n'est jamais à l'abri d'un retour de strabisme en quelque sorte.
Je vais probablement vous décevoir, monsieur Simon.
Oui, je vous en prie.
Mais on peut dire que la plupart des strabismes ne guérissent jamais. Ils sont apparents, ou ils passent par des phases d'apparence et de non-apparence. Mais dès que vous examinez de façon extrêmement précise, d'accord, les sujets par un professionnel averti, vous constatez que le strabisme est toujours là.
C'est un peu comme la dyslexie, c'est-à-dire que les dyslexiques, on arrive à les améliorer, mais ils restent dyslexiques toute leur vie.
Si vous voulez.
D'accord. On va vérifier tout cela avec vous ce matin et avec vous qui nous écoutez. J'ai déjà reçu un email par l'intermédiaire de bleuloireocean.com. Je vous le lirai tout à l'heure, professeur Pêchereau. Et puis vous pouvez nous appeler au 02 40 73 6000 pour poser vos questions, pour échanger avec le professeur Alain Pêchereau. Si vous êtes concerné par le strabisme, vous ou vos enfants, cette émission est à vous jusqu'à 11h30.
C'est bon à savoir, 02 40 73 6000.
Ce numéro de téléphone est à votre disposition jusqu'à 11h30, comme tous les jours de la semaine, du lundi au vendredi. Le strabisme ce matin dans C'est bon à savoir, en compagnie du professeur Alain Pêchereau, ophtalmologiste au CHU de Nantes. Et nous allons démarrer cette émission avec Marie-Noël. Bonjour Marie-Noël.
Bonjour.
D'où nous appelez-vous Marie-Noël?
De Torfou.
D'accord. Vous nous appelez pour votre fils.
Voilà, Maxime qui a 6 ans, qui a été suivi au CHU pour un nystagmus depuis l'âge de 4 mois jusqu'à 4 ans.
D'accord, c'est quoi un nystagmus?
Alors un c'est à moi de vous poser la question?
Oui, 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 Marie-Noël.
C'est les yeux qui bougent de gauche à droite, le professeur me corrigera si c'est pas ça.
Oui, oui, il va vous corriger si c'est pas ça, je vous en prie.
Et puis, donc voilà, ça gêne aucunement dans la vision, hein, vous voyez très très bien.
Oui.
Mais bon, il faut que ce soit soit soigné si besoin était, parce que en principe, ça devrait se corriger tout seul.
D'accord, c'est ce qu'on vous a dit.
Qui a été le cas chez nous.
Oui.
Donc, il n'y a pas eu d'opération.
D'accord. Et qu'est-ce que vous voulez savoir par rapport au strabisme?
Alors, par rapport au strabisme, là, il y a 6 mois de ça, il a porté des lunettes parce qu'il a été astigmate. Et puis, depuis quelques temps maintenant, 1 ou 2 mois, j'ai l'impression qu'il y a un œil qui part vers l'intérieur. Alors, est-ce que ça peut avoir une relation avec le nystagmus qu'il a eu il y a quelques années?
D'accord. Vous avez l'impression que...
C'est pas l'impression, c'est même sûr qu'il y a un œil qui part vers l'intérieur, surtout quand il est fatigué, quoi.
D'accord, surtout quand il est fatigué. Alors, un petit point sur le nystagmus, c'est pas le sujet de ce matin, c'est le strabisme, mais qu'est-ce qui se passe? Donc c'est les yeux qui bougent en permanence, professeur Péchereau?
Effectivement, un nystagmus, c'est un tremblement oculaire des yeux, c'est-à-dire les yeux qui vont de droite à gauche et ça se voit. Mais ce qu'il faut bien comprendre tout d'abord, c'est que nous avons tous un nystagmus. Vous, moi, et toutes les personnes ici dans cette salle ont un nystagmus. C'est ce qu'on appelle le micro-nystagmus. Ça ne se voit pas. Mais nous avons nos yeux qui bougent en permanence et c'est absolument indispensable à une bonne vision. Si on immobilise un œil, on ne voit plus.
D'accord.
Dans certains cas, ce nystagmus, pour certaines pathologies, ce nystagmus de tout petit devient grand et devient visible. C'est ce qu'a le fils de cette dame, le fils de Marie-Noël. Il est de non visible, il est devenu visible parce qu'il y a eu une maladie qui s'est mise en place. Alors, quand il y a un nystagmus, il y a des tas de variétés de nystagmus, mais il y a une variété extrêmement importante que l'on appelle le strabisme précoce. Le strabisme précoce a toujours un nystagmus qui se voit plus ou moins, et donc il y a d'associer un strabisme. Alors donc, il est parfaitement logique, dans le cas de la fille de Marie-Noël, du fils de Marie-Noël, de Maxime, d'avoir un nystagmus et un strabisme. Ce sont deux facettes de la même maladie.
D'accord. Alors aujourd'hui, est-ce que Maxime a consulté pour cet œil qui part sur le côté comme vous nous dites?
Pas du tout.
Alors quand on est parent et qu'on rencontre ce genre de situation, professeur Péchereau, faut consulter au plus vite.
C'est un impératif.
Ouais.
Ce n'est pas une urgence, mais il faut aller assez vite.
Il faut aller assez vite. Et là, l'ophtalmologiste va proposer différentes choses pour corriger ce strabisme.
Alors, premièrement, il faut bien contrôler la paire de lunettes parce que vraiment, la correction optique, comme on l'appelle dans notre langage, c'est-à-dire la force des verres, est la base du traitement. Et si des verres bien adaptés et si on a une bonne vision aux deux yeux, il faudra peut-être envisager une chirurgie.
D'accord. Alors, parce qu'on n'est pas obligé de passer... On va parler de l'opération pour corriger le strabisme ce matin, mais on n'est pas obligé de passer tout de suite à l'opération. J'ai vu que l'orthopsie permettait des fois de rééduquer un petit peu. On pouvait améliorer les choses. Ou un jour ou l'autre, on passe obligatoirement par la chirurgie.
Dans le cas de Maxime, vu l'existence d'un nystagmus associé à un strabisme, il y a très peu de chances qu'une rééducation orthoptique ait une quelconque efficacité. Et on peut même s'interroger sur la pertinence d'une telle rééducation.
D'accord.
Donc vraiment, la base, c'est d'abord le traitement optique et ensuite s'interroger sur la chirurgie.
D'accord.
Alors, je retourne voir le professeur Lavenant, là, où mon ophtalmo fera bien l'affaire.
Oui, alors la personne que l'on va voir, c'est l'ophtalmologiste en premier?
D'abord.
Oui.
Et après, il faudra se poser la question pour une éventuelle chirurgie.
D'accord. Donc, en parler avec les personnes qui suivent déjà Maxime. Je crois que là, vous n'avez plus qu'à prendre un rendez-vous, Marie-Noël.
Bon. Eh ben, d'accord.
Vous avez les réponses à toutes vos questions.
C'est parfait. Merci
beaucoup. Bon, allez,
beaucoup.
J'espère que les choses vont s'arranger, d'accord?
Pas de problème. Très bien.
Merci. Marie-Noël. Vous embrasserez Maxime.
Entendu. Merci.
Au revoir. Bonne journée.
France Bleu Loire-Océan, c'est bon à savoir, Xavier Simon.
Je reçois ce matin le professeur Alain Péchereau, ophtalmologiste au CHU de Nantes. Cette émission est consacrée au strabisme. N'hésitez pas à poser vos questions ou alors également à apporter vos témoignages si vous avez rencontré ce genre de problème, que vous avez eu recours à une opération pour corriger le strabisme. Vous pouvez également apporter votre témoignage, qu'on va en parler, cette fameuse opération qui sert à corriger les conséquences esthétiques du strabisme. 0240 73 6000. Je vous signale que le professeur Alain Péchereau a un site internet également. On peut avoir un maximum d'infos sur le strabisme. C'est www.strabisme en un seul mot, bien entendu, .net. Il y aura un lien d'ailleurs tout à l'heure à partir de 11h30 sur bleuloireocéan.com puisque l'émission est réécoutable, elle est podcastable. Nous allons accueillir Eliane de Châteaubriand. Bonjour Eliane.
Oui, bonjour.
Bonjour, je vous souhaite la bienvenue Eliane dans cette émission. Alors
merci.
Vous, j'ai l'impression que c'est la mamie qui s'inquiète.
Voilà.
Qu'est-ce qu'il y a?
Elle est très inquiète.
Elle est très inquiète.
J'ai mon petit-fils qui a 5 ans.
Oui.
Et qui a fort strabisme des deux yeux.
Mmh.
Et je comprends pas qu'on l'opère pas. Alors que, bon, ben, on peut, je crois, commencer à les opérer à l'âge de 3 ans. Bon, est-ce que à 5 ans, il lui restera pas quelque chose? Est-ce que ça va pas être tard?
Mmh. On parle quand même de l'opérer, votre petit-fils?
Eh bien, faut attendre.
Faut attendre.
Alors, pourquoi attendre?
D'accord. Moi, c'est une très bonne question, justement.
Alors que les enfants, ils auraient quand même un confort de point de vue, pas porter de lunettes. Hein.
Mmh.
Je pense que les enfants, ils ont du mal à supporter les lunettes. Hein. Bon, ils les enlèvent, on les remet, et puis il a eu il y a eu une période où on lui cachait un œil. Après, c'était l'autre. Après, c'était tous les jours, on changeait le cache d'œil. C'était un vrai supplice pour cet enfant-là. Alors, je voudrais savoir jusqu'à quel âge.
Ouais, et puis, puis on sent bien l'inquiétude. Vous dites, si on le laisse trop longtemps avec ce strabisme, quelles peuvent être les séquelles pour sa vue?
Ben oui.
Oui, puisque le professeur Péchereau en a parlé.
Pourquoi
ouais,
puisqu'on
d'accord.
sait qu'il faudra qu'il soit opéré, alors...
Ok, très bien. Alors, on va faire le point, justement, sur cette fameuse opération. Alors, moi, c'est vrai que je suis un peu comme Eliane. Elle parlait de l'âge de 3 ans pour opérer les enfants. Vous allez me dire si j'ai lu des bêtises, parce que je suis pas allé voir votre site internet, professeur Péchereau, mais vous voulez pas. Il paraît que désormais, on peut opérer un enfant atteint de strabisme dès l'âge de 2 ou 3 ans. Est-ce que c'est vrai?
Vous abordez un sujet extrêmement difficile.
Ah oui, mais ça, on a l'habitude, c'est tous les jours comme
alors,
ça dans cette émission.
On va y aller.
Allons-y.
Et il y a une opposition, par exemple, radicale entre ce qui se fait aux États-Unis et ce qui se fait en Europe. On peut, techniquement, et ça ne pose pas de problème, opérer un enfant de strabisme à partir de 6 mois. Dans le service, on a mis en place une stratégie non chirurgicale, enfin, à la limite du chirurgical, pour commencer à apporter une réponse vers l'âge de 9 mois à 1 an. Mais la question est la suivante, est-ce que lorsqu'on opère les enfants très tôt, ils en tirent un bénéfice? Est-ce que sur la longue durée, ils en tirent un bénéfice? Et là, ce n'est absolument pas évident. Quand on attend, on les opère moins et on les opère moins souvent. Donc, les Européens ont tendance à attendre et les Américains ont tendance à intervenir. Mais il faut bien reconnaître qu'aux États-Unis, il y a une pression sociétale très forte pour opérer les enfants très tôt.
D'accord.
Le deuxième point, est-ce qu'on opère pour enlever les lunettes? Non. Et ça, c'est une chose qu'il faut bien se mettre dans la tête. Le port de lunettes n'est pas changé par l'intervention chirurgicale. Le système visuel, l'alignement des yeux doit être réglé avec le port de lunettes. Car c'est la seule chose qui sera stable au cours de la vie. Donc si on veut, la meilleure façon de réopérer les enfants... Et cela peut, on peut être amené à les réopérer un grand nombre de fois, c'est de leur enlever leurs lunettes. Donc l'objectif n'est pas d'enlever leurs lunettes.
D'accord, c'est-à-dire que même un enfant qui aurait été opéré, il portera des lunettes après l'opération.
Il faut bien considérer que le problème des lunettes est indépendant de la chirurgie. Du strabisme est lié. C'est un peu compliqué, c'est indépendant et lié, mais il faut prendre comme règle les lunettes, il y en aura toujours après l'intervention.
D'accord.
Et j'oserais presque dire que si on l'enlève, si on les enlève, c'est presque un signe de mauvaise prise en charge.
D'accord.
Donc
voilà,
vais...
c'est un message fort.
Voilà, exactement. Alors, à quel âge? Je pense que avant l'entrée au CP, on doit commencer à avoir réglé les problèmes du strabisme. Parce que l'autre n'existe pas pour l'enfant jusqu'à 5 ans environ. Donc, on a jusqu'à 5 ans le temps pour poser une indication chirurgicale. Mais... J'aime bien que les problèmes aient commencé à être réglés l'année avant rentrer le CP, voire l'année d'avant.
D'accord. Donc pour l'instant, Eliane, votre petit-fils, il a 5 ans. On va dire qu'il arrive dans la période où on pourrait éventuellement l'opérer.
Hein? Oui, puisqu'il a 5 ans passé de fin mars.
Voilà. En revanche, c'est très intéressant ce que vous avez dit, professeur Péchereau, c'est qu'il vaut peut-être mieux attendre pour opérer moins souvent les enfants et avoir de meilleurs résultats sur la durée. C'est-à-dire que pendant quelques années, eh bien, il faut vivre avec cet enfant qui a un strabisme.
Absolument.
Ouais,
mais c'est l'enfant qui est gêné aussi.
Alors, qu'est-ce qui ressent l'enfant, professeur Péchereau?
Oui, sa vue, son...
Lui, comment il vit ça, l'enfant?
Oui.
Alors, premièrement, il est très difficile de se mettre dans la tête d'un enfant.
Oui, ça c'est clair.
Deuxièmement, il a été fait... est-ce que l'enfant souffre de l'image qu'il a de soi? Alors, il y a eu des études qui ont été faites avec des poupées chez lesquelles on avait créé artificiellement des strabismes. Et il ne semble pas que l'enfant jusqu'à 5 ans ait une claire notion de ce que c'est que le strabisme. Donc on peut pas dire, il n'y a pas d'argument pour l'instant au fait que l'enfant souffre particulièrement du strabisme avant l'âge de 5 ans.
D'accord. Donc c'est vraiment l'âge idéal, entre guillemets, on va toujours mettre des guillemets, mais celui où...
Oui, 4 et 6 ans, c'est le bon âge.
4 et 6 ans, c'est le bon âge. Et ça risque pas d'avoir des effets secondaires pour la vue, d'avoir attendu autant d'années?
Là, on n'a pas assez d'éléments pour répondre avec précision, mais on peut dire qu'il est peu probable que ça ait des conséquences significatives sur la longue durée.
Voilà, Eliane.
Oui, il existe alors, il sera obligé d'avoir plusieurs opérations.
Ce n'est pas tout à fait ce que j'ai dit. Il y a une certaine probabilité qu'il peut avoir besoin de plusieurs interventions, et ceci tout au long de sa vie. Deuxième message l'on peut faire passer, il n'y a pas d'âge pour opérer d'un strabisme. Hein, donc on peut opérer tout le temps d'un strabisme, quel que soit son âge.
D'accord,
voilà,
ça vous réconfortez, professeur.
Oui, on sentait bien, votre inquiétude.
Ça me choque beaucoup.
J'ai l'impression
qu'il est malheureux, cet enfant-là.
Je pense, Eliane, que quand vous regardez votre petit-fils, vous souffrez pour lui.
Voilà.
En fait, le regard que vous portez sur lui vous fait mal à vous.
C'est tout à fait le regard d'une grand-mère.
Ça s'entend.
Tout à fait.
Ne vous inquiétez pas. Les choses sont à faire à l'âge où il a, et ayez une conversation avec le papa et la maman, par exemple.
Hein? Oui.
D'accord.
Oui, je vous remercie beaucoup du réconfort que vous m'apportez.
Je vous en prie, Eliane. Bonne journée.
Merci, professeur.
France Bleu Loire-Océan, c'est bon à savoir, 02 40 73 6000.
N'hésitez pas à composer ce numéro de téléphone jusqu'à 11h30. Le strabisme ce matin, un petit message. On essaie de rappeler Anne de La Chapelle-sur-Erdre qui souhaite échanger sur ce sujet. Apparemment, votre téléphone n'est pas très bien raccroché, ça sonne toujours occupé. Anne, si vous nous entendez, raccrochez bien votre téléphone, on va vous rappeler tout de suite. Je suis en compagnie du professeur Alain Pêchereau qui est ophtalmologiste au CHU de Nantes. Le strabisme ce matin, avec vos questions et vos témoignages également. Hein, si par exemple vous avez fait... Si vos enfants ont eu recours à une opération pour corriger les conséquences du strabisme, vous pouvez témoigner, ou même vous-même nous en parler. Est-ce qu'on opère à l'âge adulte également, professeur Pêchereau ?
On opère à l'âge adulte, et même on opère dans la dernière partie de la vie. Je me souviens d'une petite histoire où une mamie, puisqu'on sort d'une mamie, repenser aux mamies, est un jour venue me voir, et elle n'avait jamais été opérée de son strabisme. Je lui ai demandé, mais pourquoi vous faites opérer de votre strabisme? Et elle m'a dit, j'en ai par-dessus la tête que mes petits-enfants m'appellent la mamie qui louche. Donc voilà une indication opératoire qui me va droit au cœur, parce qu'on voyait bien toutes les souffrances de cette dame qui avait supporté le regard des adultes, mais qui n'avait pas supporté le regard de ses petits-enfants.
Alors je vais vous lire un message que j'ai reçu ce matin après votre intervention à 8h47 concernant le strabisme. C'est Isabelle de Châteaubriant qui a envoyé ce message sur bleuloireocean.com. Vous pouvez m'envoyer des courriels ou des emails comme vous voulez. Alors elle est au travail, Isabelle, c'est pour ça qu'elle a écrit « Bonjour, j'ai connu ce problème très tôt, à l'âge de 18 mois, et elle a porté des lunettes de façon prolongée. Sa sœur cadette a elle-même eu ce problème au même âge, un problème de strabisme. Elle a été opérée par le professeur Baron à l'âge de 14 ans, quelqu'un que vous connaissez, hein, professeur Pêchereau, ce qui a considérablement amélioré ce strabisme convergent de l'œil droit qui s'était aggravé à l'adolescence. La souffrance psychologique était alors très profonde. J'imagine les colibés d'une jeune fille de 14 ans qui a un strabisme. Je porte toujours des verres correcteurs pour un fort astigmatisme et je souffre d'une fatigabilité visuelle importante. Lors de ma dernière consultation ophtalmo, l'orthoptiste a proposé des verres progressifs de faible degré pour éviter les phénomènes de dédoublement d'image. Et elle a une question après ce court témoignage. Mes trois enfants ne sont pas porteurs de strabisme. J'imagine que ça la rassure. Mais je pense qu'il existe peut-être une composante familiale. Est-ce qu'il y a une composante familiale ? Ça, c'est une question qu'on doit se poser ce matin. Est-ce que le strabisme, c'est héréditaire, professeur Pêchereau ?
C'est partiellement héréditaire, c'est tout à fait exact. C'est héréditaire de deux façons, dans la maladie strabique elle-même et par un des facteurs qui peut déclencher le strabisme que l'on appelle l'hypermétropie, enfin, le port de lunettes grossièrement. Mmh. Donc ces deux éléments sont héréditaires et on retrouve des familles où les uns et les autres, les parents, les grands-parents, les enfants ont un strabisme. Naturellement, à chaque pour chaque enfant, il y a le mélange du père et de la mère.
Oui,
et naturellement, c'est pas parce que vous avez un strabisme que vos enfants seront strabiques. C'est pas parce que vous n'avez pas de strabisme que vous aurez, que vous n'aurez pas d'enfants strabiques.
Au moindre signe des yeux de nos enfants, il faut les emmener consulter.
Ouais. Ah, ça, je crois que c'est profondément vrai. Je crois que là, vous abordez le problème du dépistage et la prévention du strabisme.
Est-ce que le strabisme, ça se dépiste? Parce qu'on se dit toujours que ça va se voir.
Oh là là, vous m'amenez loin, monsieur Simon.
Ben oui, c'est pour ça que je vous ai invité.
Premièrement...
J'ai attendu des mois pour vous recevoir, vous ne croyez pas que je vais vous laisser repartir comme ça?
Premièrement, la moitié des strabismes ne se voit pas. Donc, vous pouvez avoir un strabisme et ne pas vous en rendre compte.
Alors, et donc, celui-ci avoir des conséquences sur notre vue?
Absolument. D'où l'importance de bien suivre les dépistages prévus par la réglementation française. On dit beaucoup de mal du système de santé français, mais là, c'est un des systèmes qui a mis en place le dépistage chez l'enfant le plus performant qui existe au monde. Donc, on va dire du bien. Deuxièmement, si dans votre famille, il y a des strabismes, si par exemple l'enfant a un frère ou une sœur strabique, des parents strabiques, des grands-parents strabiques, je crois qu'entre 6 et 9 mois, il faut avoir une consultation spécialisée.
D'accord.
Si l'enfant a un strabisme de façon permanente, il y a besoin d'une consultation spécialisée entre 6 et 9 mois.
Ouais, ça c'est un autre message important.
Voilà, car les Anglais ont montré que si on corrige l'hypermétropie, c'est-à-dire un œil un peu court, on va faire simple, chez ces enfants, on diminue le strabisme par 3. Donc ça aussi, c'est un message fort. Si vous pensez que votre enfant a un strabisme, si il y a des antécédents de strabisme ou de nystagmus dans votre famille, il faut systématiquement avoir un avis spécialisé autour de l'âge de 9 mois.
D'accord. Donc pensez à ces choses-là si c'est le cas dans votre famille.
C'est bon à savoir. Chaque jour, un spécialiste vous répond.
Et ce matin, c'est le professeur Alain Pechereau, ophtalmologiste au CHU de Nantes sur le strabisme. Anne de la Chapelle-sur-Erdre d'être avec nous. Bonjour Anne.
Bonjour.
On a réussi à vous joindre, Anne. Bonjour. Je vous souhaite la bienvenue dans cette émission. Alors, vous aussi, vous rencontrez un problème de strabisme. Vous nous dites que vous avez un strabisme de naissance.
Disons que là, j'ai 53 ans.
Oui.
Et mes parents se sont aperçus quand je suis née et que j'avais les yeux qui... Mais je ne sais plus si c'est convergent ou divergent.
Oui.
Et puis, ils m'ont montré un ophtalmo et tout ça. Et puis, ils ont vu que j'avais un strabisme dû à un traitement parce qu'elle avait fait une méningite pendant sa grossesse. Et à ce moment-là, ils n'ont pas pensé à moi et c'est tombé sur mes yeux.
D'accord. Ce serait des effets secondaires de ce traitement.
Voilà, c'est
d'accord,
ça.
D'accord, auriez donné ce strabisme.
Oui. Alors, ils m'ont fait suivre par un ophtalmo et tout ça. Et puis, moi, j'avais des lunettes noires à ce moment-là avec un petit trou pour faire travailler les yeux. Disons qu'après, ils ont jugé l'opération, quoi. J'étais opérée, j'allais à l'école avec mes lunettes noires, époxy, et j'avais les yeux bandés, un œil bandé des fois, et au CP, vers le CP, j'ai dû me faire opérer. Et maman se rappelle que je suis restée longtemps à ce moment-là. C'était 8 jours presque dans le noir, et tout ça, parce que fallait pas que mes yeux voient le jour. Et ils m'ont fait suivre. J'étais suivie souvent par l'ophtalmo. Et Et puis après, mais à ce moment-là, il n'existait peut-être pas
les techniques qui existent aujourd'hui. On va faire le point. Et aujourd'hui, comment vont vos yeux, Anne?
Alors, je me suis fait opérer, disons que j'ai travaillé dans la couture en plus.
Ouais.
Et j'avais des fois des maux de tête et des yeux qui me brûlaient, qui me piquaient et tout ça. Dès que j'étais fatiguée, si vous voulez, ça se portait sur mes yeux. Et j'ai une cousine à ce moment-là qui faisait suivre son fils et elle me dit « Mais pourquoi tu vas pas voir un tel docteur ?» Mais je me rappelle plus exactement, il était sur Édouard Normand à ce moment-là.
D'accord.
Il est décédé maintenant.
Excusez-moi Anne, je vous presse un tout petit peu.
Oui.
Vous êtes refait opérer ?
C'est qui m'a fait suivre par quelqu'un qui faisait de la rééducation.
Ouais.
Et il a jugé de me réopérer.
D'accord. Et vous avez été réopérée quand la fois dernière?
J'étais opérée à 23 ans.
D'accord. Donc là, ça fait 30 ans que vous n'avez pas été opérée.
Oui.
C'est ça. Et, et vous avez toujours ce strabisme? Il a récidivé?
Non.
Vous vous sentez bien?
Ça a beaucoup amélioré. Il y avait du travail à faire, comme il me disait, mais ça a été réussi, quoi. Parce que j'ai vraiment eu de l'amélioration à ce moment-là. Bon, j'ai toujours porté des lunettes depuis l'âge de 3 ans, mais ça ne m'empêche pas de faire maintenant quand même quelque chose, quoi.
D'accord.
Mais... excusez-moi,
oui,
mais ma fille a quand même eu la même chose que moi.
D'accord.
Hein? Alors, mais par contre, elle, on l'a fait suivre parce qu'à ce moment-là, bon, disons qu'on a envoyé qu'elle avait un strabisme, mais le médecin à ce moment-là disait « Oh bon, non, bon ». Mais à ses 3 ans, on a fait examiner ma fille.
Ouais.
Et là, ils ont vu qu'elle avait un strabisme un petit peu comme moi, forcément.
Ouais.
Et elle a été suivie jusqu'à l'âge de 10 ans par rapport à la rééducation. Tous les mois, on allait pour sa rééducation.
Et est-ce qu'elle a été opérée?
Et elle n'a pas été opérée.
D'accord.
Elle était sur le... Bon...
Excusez-moi, elle a quel âge maintenant, votre fille?
Ma fille, elle a 22 ans.
Et ses problèmes de strabisme?
Et elle a eu des problèmes de strabisme, mais ça s'est bien arrangé.
D'accord.
Parce que maintenant,
Anne, excusez-moi, je vous interromps pour faire le point avec le professeur. Vous êtes un peu bavarde, Anne, dites donc.
Oui.
Non, mais c'est pas grave. C'est le principe de l'émission, c'est d'échanger. Je voudrais revenir sur votre histoire et sur les techniques pour opérer. J'imagine qu'elles ont énormément changé en 30 ans ou en 40 ans ou en 50 ans, professeur Pechereau.
On va d'abord répondre à une question de Anne, si vous permettez.
Ah bah allez-y.
Est-ce que le nom du docteur Gouret lui dit quelque chose?
Oui, c'est ça.
Et est-ce que le nom de Mademoiselle Bernadet lui dit quelque chose?
Peut-être, je me rappelle pas du nom.
Ouais, mais là vous trichez, professeur Pechereau, je pouvais pas la poser cette question-là, je les connais pas.
Non, mais...
Vous avez reconnu la technique en quelque sorte, oui.
Alors, les techniques ont beaucoup évolué, parce que l'environnement est devenu microchirurgical, maintenant on opère sous microscope. Les connaissances de la physiologie des muscles ont amené des grandes modifications.
Mmh. Est-ce qu'il est vrai que vous retirez les yeux de l'orbite et que vous les pas?
C'est strictement impossible.
Non mais attendez, j'ai déjà entendu ce genre de choses.
Là, oui.
On retire les yeux, vous les posez, vous retouchez le muscle, vous remettez les yeux et puis on corrige le strabisme. Mais on est là aussi pour chasser des idées reçues, professeur Pechereau.
Oui, c'est ce qu'on entend régulièrement à la consultation, mais c'est une idée erronée.
Bon, tant mieux. Ça m'arrange.
Non, mais on ne saurait pas faire ça. C'est
d'accord.
Strictement impossible sur le plan technique, du moins pour l'instant.
Voilà, ça c'est fait, comme on dit.
Voilà, exactement. Alors, il y a déjà une chose qu'on peut dire à Anne. Je ne pense pas que la méningite de sa maman et que le traitement que sa maman a subi ait une quelconque influence pour une raison toute simple.
Je m'en doutais que vous alliez dire ça.
Ben oui, parce que sa fille a un strabisme. Et donc, c'est la preuve que c'est une composante génétique et que ce sont deux éléments, c'est deux éléments concomitants, mais l'élément génétique est l'élément prédominant dans son cas.
Donc, vous voyez, il y a pas vraiment de lien. Et peut-être en recherchant dans votre famille, peut-être y avait-il des gens qui avaient des problèmes de strabisme avant.
Non, pas spécialement. Ils en avaient pas vraiment.
Oui, mais peut-être un petit peu plus loin, ça peut sauter quelques générations, j'imagine, professeur Pechereau.
Absolument. Alors, à 3 ou 4 générations, on a presque tous des liens parentaux avec des gens qui ont des strabismes.
Je vous remercie, Anne, d'avoir été avec nous.
Bien.
Je vous souhaite
Merci
une bonne
beaucoup,
journée.
Mais c'était simplement pour ça, pour dire que quand même, vu mon opération d'il y a 33 ans, que quand même, ça...
T'as bien amélioré les choses.
Voilà.
Vous avez tout à fait raison.
Et d'ailleurs, on va le vérifier tout de suite avec le prochain témoignage d'une personne qui s'est fait opérer plusieurs fois du strabisme.
D'accord.
Au revoir, Anne. Bonne journée.
Merci.
Au revoir.
C'est bon à savoir. Chaque matin, France Bleu Loire-Océan vous donne la parole.
On vous donne la parole sur le strabisme ce matin en compagnie du professeur Alain Pechereau qui est ophtalmologiste au CHU de Nantes. Cathy est avec nous. Bonjour Cathy.
Bonjour.
Vous nous appelez de Cambon.
Oui.
Vous avez 46 ans.
Eh oui.
Et vos yeux sont en parfaite santé.
Bon, en parfaite santé, pas spécialement, mais bon, c'est vrai que j'ai subi une opération la première fois à écouter mes parents et mes frères et sœurs. J'ai été opérée à l'âge de 1 an.
D'un an, d'un strabisme,
d'un
c'est
strabisme.
Ça. D'accord.
Et mes premières lunettes, c'était des toutes petites lunettes à verre fumé.
D'accord.
Donc... Après, j'étais... parce que bon, moi j'avais un strabisme à gauche. Après l'opération, c'était à droite. Donc j'étais réopérée, je devais avoir 5-6 ans. Et les deux dernières opérations, j'ai été opérée vers 15 ans, dans l'année de mes 15 ans, j'ai été opérée 2 fois dans la même semaine.
D'accord. Et vous avez encore été opérée après vos 15 ans?
Non.
D'accord. Vous avez été opérée en tout 4 fois?
4 ou 5 fois.
D'accord.
Et les deux dernières opérations, l'opération où j'ai été opérée deux fois dans la même semaine, j'avais des fils à l'intérieur des yeux, si vous voulez, quand je me regardais dans la glace, j'avais des fils, j'avais 7 points de suture sur un œil et 6 sur l'autre, sur le côté.
Alors Cathy, restez avec nous, je vais me tourner vers le professeur Péchereau. Qu'est-ce que vous leur faites à nos yeux quand on a un strabisme? De quelle manière vous nous opérez?
Alors, on ouvre la conjonctive, vous savez, c'est un tout petit tissu qui est sur le devant le blanc de l'œil.
Ouais.
Il y a un petit tissu, et par là, on arrive à accéder au muscle. On ouvre, c'est un. Et à ce moment-là, on va sur le muscle et on déplace l'insertion, hein, parce que les muscles viennent de l'arrière de l'œil, viennent s'attacher à l'œil.
Mmh.
Donc, on l'isole et on le sépare du globe oculaire, puis on le recule en arrière, hein, on le ramène plus près de son origine. Donc ça diminue sa force. Ou alors, on va le plisser. On va faire un petit pli et ça augmente sa force.
D'accord.
Donc en fonction de différents paramètres, on dose plus ou moins la chirurgie.
C'est une opération qui dure longtemps ?
Ça dure de 10 minutes à 1 heure.
D'accord.
Suivant le nombre de choses que l'on fait.
La personne est hospitalisée longtemps ?
Hôpital de jour actuellement. On rentre le matin, on sort le soir.
Ah carrément ?
Oui, on peut faire ça.
Et ça fait mal après ?
Ça fait un peu mal.
Ouais.
Ça fait pas très mal.
Et que doivent faire les personnes après avoir été opérées? Elles doivent porter des lunettes, des endépensements, il faut mettre des collyres, qu'est-ce qui se passe?
Alors premièrement, on a déjà dit qu'il ne fallait pas qu'on maintenait les lunettes, donc
ouais.
Les lunettes ne sont pas changées.
D'accord.
Deuxièmement, ils ont des collyres.
Ouais.
Troisièmement, on souhaite qu'ils reprennent leur activité la plus normale possible, le plus rapidement possible.
Mmh.
Donc si on a un arrêt de travail, 48 heures à 15 jours, suivant les professions. Et il ne faut pas aller dans des environnements qui pourraient être sales, entre guillemets. Alors, par exemple, la piscine, là, est contre-indiquée. Les manèges, hein, le cheval, l'équitation.
Mmh, mmh.
Il ne faut pas déménager son grenier, etc. etc. Mais une reprise d'activité dite normale est à souhaiter le plus rapidement possible.
D'accord. Cathy, comment vous avez vécu ça, vous?
J'ai vécu les opérations en elles-mêmes. Je n'ai pas le souvenir d'avoir eu mal. J'ai les souvenirs que j'avais une compresse entre les opérations, parce que j'en ai tellement eu, entre les opérations j'ai eu une compresse sur un œil, après sur l'autre. J'ai eu de la kiné aussi, de la kiné pour les yeux, mais j'ai pas le souvenir d'avoir eu mal.
Vous avez fait de l'orthopsie, c'est ça?
Voilà.
Ouais.
Moi, j'ai des bons souvenirs de l'opération. C'est vrai qu'on restait pas... peut-être toute petite, si j'ai souffert d'être restée peut-être une semaine à l'hôpital, parce que on est toujours loin de ses parents. Mais à 15 ans, j'en ai pas souffert. Hein.
D'accord. Et est-ce que vous avez souffert des moqueries?
Ah oui, ça, oui.
Parlons-en un petit peu, parce que voilà...
Avec le
professeur Péchereau, on fait le point sur la chirurgie, ce que l'on fait, ça. Mais il y a aussi ce que les enfants, les enfants ressentent. J'ai l'impression que l'opération, c'est rien à côté de ce qu'on se prend dans la
tête.
Ah
non, l'opération, c'est rien. Ouais. C'est les moqueries à partir de 6 ans, 5-6 ans, je pense que ça doit être quand on rentre en CP. Moi, je sais que j'ai été surnommée Clarence et ça a traîné énormément.
Alors, il faut qu'on explique Clarence. Clarence était le lion dans la série d'Actari et ce lion louchait parce que
oui, oui.
Je sais pas s'il y a des gens de 25 ou 30 ans qui nous écoutent, ils savent pas peut-être qui est Clarence. Ah oui, oui, je me souviens de... D'accord, ouais, c'est sympathique, quoi.
Ça, j'en ai énormément souffert. Hein.
Il y a des enfants, des parents qui viennent voir professeur Péchereau en disant est-ce qu'on pourrait opérer? On n'en peut plus des moqueries. Ça peut arriver?
Il y a cette demande.
Ouais,
mais il y a aussi la demande inverse, des parents qui sous-estiment les difficultés psychologiques de leurs enfants et qui ne souhaitent pas les faire opérer pour de multiples raisons et qui ont tendance à... parce qu'ils trouvent que le strabisme n'est pas très important et qui sont relativement indifférents ou qui... ont de la difficulté à prendre le risque de l'intervention. Et ça, je crois que madame a raison d'insister, et je crois qu'on n'insiste pas assez. Et là, les auditeurs qui nous écoutent et que l'on va avoir ultérieurement devraient nous raconter vraiment les difficultés qu'ils ont. Parce que quand on consulte, on se rend très bien compte que cela est particulièrement douloureux.
Douloureux, ouais, j'imagine.
Et que là, il faut vraiment insister sur le retentissement psychologique de cette maladie.
Cathy, merci beaucoup d'avoir été avec nous, d'avoir apporté votre témoignage.
Oui, en plus, j'ai été opérée au CHU avec le professeur Clergeau à l'époque, donc...
D'accord. Il avait bien travaillé, alors.
Oui, c'est vrai que j'ai encore... j'ai les yeux sensibles, je peux pas... S'il y a trop de fumée ou des trucs comme ça, j'ai les yeux qui pleurent, j'ai les yeux sensibles, mais sinon, ça se voit... quand je suis fatiguée, peut-être un peu plus, mais c'est vraiment minime par rapport à
ce que vous avez vécu, j'imagine.
À ce que j'ai vécu, ouais.
Merci beaucoup, Cathy.
De rien.
Bonne
Merci,
journée.
Au revoir.
Au revoir.
France Bleu Loire-Océan, c'est bon à savoir, Xavier Simon.
Depuis 10h ce matin, je suis en compagnie du professeur Alain Pêchereau, ophtalmologiste au CHU de Nantes, spécialiste du strabisme. C'est notre sujet ce matin. Je vous signale qu'il y a un site internet fait par le professeur Pêchereau, c'est www.strabisme.net. Je vous invite à aller sur ce site. D'ailleurs, il y aura un lien sur bleuloireocean.com. On va accueillir Françoise de Nantes. Bonjour Françoise.
Bonjour
Françoise, vous avez 56 ans.
Oui.
Et vous dites que vous avez eu un strabisme à l'âge de 5 ans.
Oui, tout à fait. Enfin, c'est à cet âge-là que finalement ça a été décelé ou que mes parents ont consulté, je ne sais pas trop comment ça s'est passé. Toujours est-il que ça a été décelé à l'âge de 5 ans. Et là, on m'a fait porter des lunettes. Et un an après, ou 6 mois après, je ne sais pas trop parce que c'est très loin pour moi... Toujours est-il que lorsque je suis retournée pour faire un contrôle, on s'est aperçu que mon strabisme était pratiquement corrigé, mais en fait, je n'avais plus de vision dans cet œil.
Vous n'aviez plus de vision dans cet œil ?
Non. Et après, donc, on m'a fait faire de la rééducation, on m'a mis un cache sur l'œil et j'allais tous les jours. Donc, on me cachait l'œil qui voyait pour faire travailler l'autre. Et pour moi, c'était... Enfin, c'était dramatique parce que je pensais que j'allais devenir aveugle et même toute petite, je m'étais obligée, si vous voulez, à compter les pas de ma chambre à la salle de bain, de ma chambre à la chambre de mes parents, etc., etc. Et à la fin de cette rééducation, qui a duré à peu près un mois, on a dit, y a rien à faire.
Et vous avez perdu votre œil.
Absolument.
Aujourd'hui, vous avez 56 ans.
Oui.
Et vous ne voyez que d'un œil.
Absolument.
Alors, je vais me tourner vers le professeur Pêchereau, parce que vous nous avez dit, professeur, je l'avais lu en préparant l'émission, qu'il ne fallait pas négliger le strabisme, que ça pouvait avoir des conséquences graves sur la vue, notamment la perte de la vue.
Oui.
Est-ce que, par exemple, pour Françoise, le strabisme a été dépisté seulement à l'âge de 5 ans? Vous nous avez parlé de 9 mois tout à l'heure. Chez les bébés, on pouvait faire un contrôle à l'âge de 9 mois. Est-ce que, par exemple, un enfant dont le strabisme n'est pas dépisté ou dépisté trop tard peut altérer sa vue?
Absolument.
Et c'est peut-être ce qui est arrivé à Françoise.
Alors, ce qu'on peut dire, c'est très difficile
refaire
une histoire.
Mais rapport à ce qu'on a entendu.
Je pense que Françoise illustre parfaitement ce que l'on a dit de différentes façons depuis le début de cette émission. On a constaté son strabisme à l'âge de 5 ans, mais probablement que son strabisme était bien antérieur.
Oui.
Que ça faisait partie des fameux strabismes qui ne se voient pas, mais qui ont les mêmes conséquences que les strabismes qui se voient. Et la conséquence majeure d'un strabisme, c'est la perte de vision d'un œil. Alors, les raisons sont compliquées et bien connues maintenant, et je crois que Françoise l'a parfaitement montré. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire? On peut dire que maintenant, que... Parce que là, ça s'est passé en 1955.
Oui, bien sûr.
Donc, les techniques ont changé. Qu'est-ce qu'on peut dire? C'est que jusqu'à 24 mois, le cerveau visuel est extrêmement plastique. Et que si on met un traitement avant l'âge de 2 ans, on a de très fortes chances de guérison. Ça ne veut pas dire qu'il faudra poursuivre le traitement pendant de longues années, mais on a de très fortes chances de guérison. À l'âge de 6 ans, on estime qu'on a une chance sur deux de récupérer l'œil. Le seul traitement, c'est le traitement qu'on a fait à Françoise, c'est l'occlusion, c'est le fait de cacher un œil, ça n'a pas changé. Mais je pense qu'on n'a pas été assez rigoureux. On ne va pas lui en faire le reproche.
Non, elle y est pour rien, Françoise.
Elle y est absolument pour rien. À 6 ans, on a une chance sur deux. À 10 ans, c'est définitif. Donc, d'où l'importance d'amener les enfants très tôt, parce que le traitement est très efficace, et sur la chose la plus précieuse qui soit, c'est-à-dire la vision de chaque œil.
Oui, bien sûr.
Donc, donner une très bonne vision à chaque œil, c'est vraiment le premier objectif du traitement, parce que, comme on l'a vu, on peut se repérer plusieurs fois et tardivement. Mais là, c'est un passage à niveau, et si il est fermé, il sera fermé définitivement.
Alors, moi, il y a quand même une chose qui m'interpelle dans votre histoire, Françoise. En supposant que vous ayez un strabisme qui ne se voyait pas, qu'est-ce qui a fait qu'à 5 ans, on l'a dépisté ?
Eh bien, je pense que c'est l'entrée à l'école où les visites étaient obligatoires. Enfin, à mon avis, je pense que c'est ça, parce que mes parents n'étaient pas. J'ai des parents qui étaient très durs pour eux-mêmes et qui s'arrêtaient pas trop à ce genre de détails.
Ouais, et puis il y a 50 ans, on faisait moins attention à la santé des enfants. Les prises en charge n'étaient pas pareilles, les dépistages n'existaient pas. Il faut savoir qu'en l'espace de 50 ans, on a allongé la durée de vie d'une trentaine d'années de l'être humain. Donc il y a quand même beaucoup de choses qui ont changé. Donc oui, je vous vois, vous voulez réagir, professeur Péchereau.
Allez-y. Oui, parce que Françoise nous donne la solution. Il faut bien l'écouter. En fin de compte, son strabisme a commencé à se voir quand elle a augmenté ses besoins visuels en allant à l'école. Et elle est très probablement hypermétrope. C'est pour ça qu'elle porte des lunettes. Donc elle a stimulé de façon un peu plus forte son accommodation. Enfin, c'est la capacité à voir de près. Du fait de son besoin de voir de près. Et alors ça a augmenté le strabisme. Ça s'explique remarquablement bien.
D'accord.
Donc elle nous fait l'histoire de la maladie strabique. Il suffit de l'écouter et elle nous dit tout sur une constatation que l'on entend. Ça a débuté à 3 ans, ça a débuté à 4 ans, ça a débuté à 5 ans, quand j'ai été à l'école. Parce qu'on augmente notre besoin visuel. Et à ce moment-là, on favorise, par toute une histoire de réflexes compliquée, on favorise l'apparition du strabisme.
Merci Françoise d'avoir été avec nous.
Je vous en prie, merci.
Merci, je suis désolé que vous ayez perdu votre œil. Mais je vous remercie infiniment d'avoir apporté votre témoignage parce que ça permet de faire passer des messages très très forts et peut-être d'alerter des parents sur un tel sujet. Moi j'ignorais personnellement que le strabisme qui ne se voit pas existait et qu'il pouvait avoir des conséquences aussi graves.
Voilà, c'est pourquoi je voulais témoigner.
Mais je vous en remercie, beaucoup.
Merci beaucoup.
Françoise, bonne journée.
Merci, au revoir.
Au revoir.
C'est bon à savoir, 10h, 11h30.
Nous arrivons à la conclusion de cette émission qui est consacrée au strabisme ce matin en compagnie du professeur Alain Péchereau, ophtalmologiste au CHU de Nantes. Et nous accueillons pour terminer cette émission Stéphanie, qui nous appelle de Savenay. Bonjour Stéphanie.
Oui, bonjour.
Alors Stéphanie, vous avez 32 ans.
Voilà.
Et vous êtes victime d'un strabisme depuis la naissance.
Voilà.
Comment vous savez ça ?
En fait, mes parents s'en sont rendus compte, étant donné que je louchais, quoi. Et donc, ils m'ont envoyé voir un orthoptiste.
Mmh.
Et donc, j'ai eu un cache sur un de mes verres de lunettes, quoi. Et ça s'est remis tout seul, si vous voulez.
Oui.
Mais bon, en fait, je pense l'avoir toujours gardé, mais il ne se voit plus. Et c'était l'année dernière, en fin d'année, ce qui s'est passé, c'est que... Mais quand je regardais sur mon côté gauche, quoi, si vous voulez, l'image n'était pas nette. Si vous voulez, je ne voyais pas double, mais l'image était... je sais pas, au niveau des angles ou quoi que ce soit, c'est comme si, en fait, mes deux yeux ne se suivaient pas.
Mmh.
Et à côté de ça, j'ai également une sclérose en plaques. Et je suis quand même allée consulter un ophtalmo et qui m'a dit qu'en fait, moi, oui, il voyait du strabisme. Et j'ai aussi téléphoné à mon neurologue qui a cru que peut-être que je faisais une poussée. Donc en fait, c'est assez confus tout ça et j'aurais aimé savoir exactement comment se manifeste un strabisme qui ne se voit pas.
Alors justement, vous avez entendu le témoignage précédent,
oui.
J'imagine.
Oui.
Ce qui ne vous a peut-être pas rassuré. Peut-être, mais on va faire le point. Je voudrais vous poser une question. Vous n'avez pas été opéré
du
strabisme.
Non.
Donc la professeure Péchereau, dans l'histoire de Stéphanie, on dépiste le strabisme, on le corrige. Apparemment, celui-ci s'en va, mais je dis bien apparemment, puisque avec vous, on a appris ce matin qu'un strabisme ne disparaît jamais complètement, même opéré. Hein, vous me dites, professeur Péchereau.
Il y a quand même des strabismes qui guérissent,
ouais.
Mais beaucoup de strabismes ne guérissent pas.
D'accord. J'avais vu qu'il pouvait récidiver. Ouais. S'il y récidive d'un strabisme qui ne se voit pas, il y a danger ?
À l'âge de Stéphanie... Alors, qu'est-ce que l'on sait de Stéphanie ? On sait qu'elle a un strabisme qui était dès le début de sa vie.
D'accord, naissance.
Alors, ceux-là ne guérissent jamais.
Hein. Mmh,
donc, elle a toujours eu, même si ça ne se voyait pas, un petit strabisme. Et en l'examinant très finement, on aurait vu les signes du strabisme de naissance. Donc ça. Elle a une deuxième maladie, là, la situation devient beaucoup plus compliquée.
Cette théorie.
Et là, il y a un certain nombre de mélanges, et il est hors de question de faire une consultation, et on n'a pas les éléments pour répondre aux interrogations de Stéphanie. Quelle est la part que l'on peut mettre à la sclérose en plaques? Quelle est la part que l'on peut mettre au strabisme d'origine précoce? Mais il y a aussi le fait que la sclérose en plaques, en elle-même et par les traitements qu'elle est obligée de prendre, la fatigue, retentit sur tous les réflexes de la fonction visuelle et donc mm-hmm. peut faciliter la réapparence du strabisme.
D'accord.
Il y a une chose aussi qui permet de savoir si le strabisme était précoce, c'est que probablement que Stéphanie n'a pas de sens du relief. Hein. Elle ne voit pas les choses en relief. Alors elle n'en a pas toujours conscience, parce que quand on a une fonction comme ça, quand on ne l'a jamais eue, on ne sait pas ce que c'est que de la voir. Hein. Et il est inimaginable de se mettre à la place de quelqu'un qui l'a eue. Hein. C'est comme un daltonien, des choses comme ça. Je peux me permettre de lui poser des questions. A-t-elle des difficultés pour enfiler le fil dans le chat d'une aiguille?
Ah oui, de toute façon, je porte des lunettes.
Oui, mais même avec vos lunettes, vous avez des difficultés à effiler un fil dans le chat d'une aiguille?
Oui.
Ah oui, voilà. Et ça, c'est caractéristique du strabisme de naissance. Ça, c'est une chose qu'elle va garder toute sa vie et qui, c'est se perdre le sens du relief. Et ça, c'est absolument typique du strabisme précoce.
Mais est-ce qu'on peut faire des poussées de strabisme? En fait, ça m'a duré ce problème une semaine.
Oui,
mais je voyais mal pendant une semaine. Je ne voyais pas double. C'est déjà ça, parce que bon, dans la sclérose en plaques, je peux faire une diplopie. Et donc, je ne voyais pas double, mais si vous voulez, mes yeux se suivaient mal. Donc, l'image était un peu perturbée, quoi.
Alors, il y a deux entrées possibles dans votre cas. Soit c'est la sclérose en plaques, une des manifestations de la sclérose en plaques, première entrée. Deuxième entrée, c'est votre fatigue, une fatigue générale peut perturber l'adaptation à votre strabisme. Et on voit l'angle du strabisme qui augmente.
D'accord.
Et pour une personne comme Stéphanie, jeune, hein, 32 ans, donc vous êtes victime d'une sclérose en plaques, est-ce qu'une personne qui aurait une autre pathologie, autre que le strabisme, d'une trentaine d'années ou plus, est-ce que vous pouvez encore intervenir et opérer par exemple ce strabisme?
On peut opérer le strabisme, mais le problème c'est que les deux yeux n'ayant pas appris à travailler ne travailleront jamais ensemble.
D'accord.
Mais on peut les opérer du strabisme.
C'est-à-dire qu'on peut éventuellement intervenir sur ce strabisme, même s'il y a une pathologie associée?
Absolument. Il faut discuter avec la patiente, il faut que le contrat soit clair, mais il n'y a pas de raison, s'il y a une demande et qu'on est d'accord et que tout le monde ait bien conscience des risques, il n'y a pas de raison de ne pas proposer une chirurgie.
D'accord.
D'accord.
Voilà, Stéphanie.
Et je suis aussi hypermétrope, et je porte pas régulièrement mes lunettes. Ça,
alors là,
je dois l'avouer.
C'est pas bien du tout.
Et là, vous allez vous faire gronder par professeur Pécho.
Ah, tous les
coups. Comme tous les ophtalmos à chaque fois, de toute manière. D'accord.
Donc, mais essayez des lentilles de contact.
Oui, enfin, je pense pas pouvoir les supporter.
Pourquoi?
Je sais pas, j'ai les yeux clairs et j'ai des problèmes aussi d'allergie. Enfin bon.
Ce n'est pas sûr. Essayez des lentilles flexibles.
Ah,
ça
ouais.
peut être une très bonne chose
pour vous.
Je vous
préviens, Stéphanie, pour avoir le dernier mot avec le professeur Pécherot, vous avez intérêt à vous accrocher. Et je vais vous dire une chose.
Oui.
Moi, je trouve que c'est super sexy une femme avec des lunettes.
Ah, d'accord.
Mais voilà, si je peux mettre mon petit grain de sel.
Mais Xavier, il est super sympa pour ses invités.
Non, mais c'est vrai en plus. Non, mais je le pense, Je trouve qu'une femme avec des lunettes, on va me dire, c'est sûr, vous emportez pas, vous pouvez pas vous rendre compte.
Je trouve que ça alourdit, moi. Enfin, je sais pas.
Il y a des belles lunettes maintenant. Hein.
Oui,
puis je trouve que c'est un peu sexy une femme avec des lunettes.
D'accord.
Voilà, Stéphanie, bon courage.
D'accord, merci beaucoup.
Au revoir.
Au revoir.
Il nous reste une petite minute, professeur Pécherot, avant de vous remercier d'avoir participé à cette émission. Il y a un autre message que vous vouliez passer, c'est que vous m'avez dit, on louche jamais que d'un seul œil. Hein. Oui. On louche toujours des deux yeux.
Exactement.
Alors c'est assez étonnant puisque en général, vous nous avez expliqué que on a un strabisme à l'œil droit ou à l'œil gauche et vous nous dites qu'on louche toujours des deux yeux.
Effectivement, ça choque l'idée qu'on se fait de la maladie strabique, car on dit toujours il louche de l'œil droit, il louche de l'œil gauche. De temps en temps, on entend des gens qui disent il louche des deux yeux,
oui.
Mais la maladie strabique est une maladie des deux yeux. C'est une maladie de l'équilibre des deux yeux. Mais comme on est obligé de fixer, pour bien voir, on n'utilise qu'un œil. Alors, il y a un œil qui se met à prendre la fixation et tout le strabisme se voit sur l'autre œil. Mais en fait, il faut avoir un peu l'idée qu'il y a la moitié sur l'œil droit et la moitié sur l'œil gauche.
Donc, alors, on l'a bien compris avec vous ce matin, le strabisme n'est pas à négliger, ce n'est pas une coquetterie des yeux. Il faut vraiment le prendre en charge et on en a les moyens. Professeur Alain Pécherot, merci beaucoup d'avoir été avec nous.
C'est moi qui vous remercie. Hein
je rappelle que vous êtes ophtalmologiste au CHU de Nantes et puis, je vous invite, vous qui nous écoutez ce matin, soit à réécouter l'émission sur bleuloireocean.com, elle est podcastable pendant 24 heures jusqu'à demain, et puis d'aller faire un tour sur le site du professeur Pécherot, www.strabisme.net. Merci professeur, au revoir.
Merci.